La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est un véritable enjeu de santé publique que celui justement de la santé des migrants. Question peu évoquée, pas assez, pourtant essentielle au regard des troubles et de la vulnérabilité de ces personnes qui arrivent dans nos pays après un long voyage semé d'embûches. Souvent blessés, brisés, désespérés, les troubles psychiques graves représentent la première maladie chez ces personnes. Comment sont-elles accueillies et prises en charge une fois arrivées en France? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités, médecins psychiatres qui agissent en faveur de la santé et de l'accès aux soins des migrants. C'est le dossier de la tête au carré avec vos messages, toutes vos questions dès maintenant en franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui le cri d'alarme de chercheurs contre l'usage des fongicides dans l'agriculture.
Oui, dans une tribune publiée dans la presse lundi, ils en appellent à un moratoire rapide sur certaines molécules par crainte d'impact pour l'environnement et la santé. On en discute avec Pierre Rustin du CNRS.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Anna Massardier.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Pour parler dans un instant de la santé des migrants, dossier donc de l'émission avec mes invités que je salue, les médecins Arnaud Weiss, Christophe Lagabriel et Daniel Brier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Arnaud Weiss, la santé des migrants, enjeu de santé publique aujourd'hui.
Absolument, par l'ampleur des problèmes posés, par l'impact que ça a sur la population. Et là, on ne parle pas seulement, comme trop souvent dans les représentations de la population, des maladies infectieuses, qui sont finalement qu'une petite partie, vous l'avez dit tout à l'heure, des problèmes posés. Mais justement, pour prendre l'exemple des troubles psychiques dont on va parler davantage, c'est beaucoup de souffrance à prendre en charge par beaucoup de soignants, d'assistantes sociales, de citoyens, d'associations. Et c'est des situations qui sont souvent extrêmement longues et lourdes à prendre en charge et qui vont préoccuper beaucoup de monde.
Daniel Brier, vraiment ces troubles psychiques, ce sont les plus urgents à prendre en charge aujourd'hui incontestablement?
Oui, alors les migrants ne viennent pas avec une demande psychique, ils viennent avec des troubles somatiques et c'est à partir de ces troubles somatiques que pourra se mettre en place tout un travail. Mais d'emblée, les médecins qui reçoivent ces jeunes se rendent compte de leur souffrance, de leur parcours et sont assez alarmés et demandent l'avis du psychiatre.
Les jeunes, en ce qui vous concerne, avec Médecins du Monde, on en reparlera parce qu'évidemment, on va parler de tous les migrants et de tous les âges cet après-midi. Christophe Lagabriel, vous travaillez à Bordeaux auprès des exilés avec une équipe mobile de psychiatres. Ça existe depuis combien de temps maintenant?
Alors, l'équipe existe depuis 9 ans. Elle est supportée par l'hôpital Charles Perrin, ce qui a monté ce dispositif. Comme il y a de nombreux en France, il y en a 140, je crois, en France, destinés à s'adresser aux plus démunis, aux au-devant d'eux, dans les structures où ils sont logés.
On va en parler évidemment dans un instant. On va se retrouver pour faire le point sur la santé donc, de ces personnes et puis sur la façon dont ils sont accompagnés dans notre pays du point de vue du soin. Et vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alerte sur les fongicides aujourd'hui à la une de la science.
Contre les principales maladies du blé, de la montaison à l'épiaison. Tous les programmes fongicides ont aujourd'hui une solution Planète. Planète Air ou Planète Aster. Planète, toute l'intelligence fongicide.
Voilà, c'est en 1993 qu'on pouvait entendre cette publicité et aujourd'hui les agences de santé qui sont peut-être passées justement à côté des effets des fongicides sur la santé et l'environnement depuis maintenant plus de 25 ans. C'est la question simple et documentée que pose dans Libération un groupe de 8 scientifiques spécialistes des maladies rares et des cancers. Axel, on accueille celui qui est à l'origine de cette tribune.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Pierre Rustin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS dans l'équipe physiopathologie et thérapie des maladies mitochondriales. Alors ce sont des maladies souvent génétiques, héréditaires. Expliquez-nous un peu comment vos travaux sur ces pathologies ont fini par croiser la route des fongicides alors.
Eh bien depuis une trentaine d'années, nous travaillons sur les maladies.
Ah, je crois qu'on vous entend assez mal. Vous pouvez essayer de répondre une deuxième fois, mais si ça passe pas, peut-être qu'on devra vous rappeler.
D'accord. En fait, depuis une trentaine d'années, nous travaillons sur les maladies mitochondriales, sur les aspects génétiques. c'est bon, ça passe ?
Ça passe très bien.
Oui, très bien, Pierre-Eusin. Continuez, on vous entend.
Alors, je continue. Et à l'occasion de travaux que nous avons faits depuis des années, depuis les années 95, en fait, 1995, nous avons vu qu'une partie de ces maladies dites mitochondriales était liée à un déficit d'une enzyme particulière qui est localisée dans les mitochondries, ces petites usines énergétiques de toutes les cellules. Mmh. Cette enzyme, elle s'appelle la SDH, succinate déshydrogénase. Et nous avons, au cours des années, vu que des blocages génétiques de cette enzyme pouvaient conduire chez l'enfant à des maladies neurologiques très graves, ou au contraire chez l'adulte à des tumeurs et à des cancers qui touchent les reins et les voies gastriques.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé jusqu'aux champignons alors ? Et à ceux
alors,
qui tuent les champignons ?
J'en viens à cela. En travaillant sur ces maladies depuis des années, nous avons été amenés à écrire un nombre de revues scientifiques de mise au point sur ces maladies. Et à l'occasion d'une de ces dernières revues que nous avons faites, nous nous sommes intéressés à l'aspect non génétique possible des déficits de cette enzyme, du blocage de cette enzyme. Et là, nous sommes tombés sur les inhibiteurs de ces enzymes qui sont utilisées comme fongicides à très grande échelle maintenant dans le monde.
Et donc vous êtes simplement posé une nouvelle question, vous n'avez pas fait de nouvelles études sur ces fongicides ?
On n'a pas fait véritablement de nouvelles études, les éléments sont tous là, chacun les a en main. La seule chose que nous avons vérifiée, c'est que effectivement ces fongicides bloquaient bien l'enzyme humaine. Et nous avons trouvé une sensibilité équivalente chez l'homme et chez les vers, le ver de terre.
Pierre Rustin, donc ça a été assez long, le processus, justement, le lien entre vos études et puis ensuite l'association avec les fongicides, ça vous a surpris finalement cette découverte ?
Totalement, on ne s'y attendait pas du tout, d'autant plus que nous travaillons depuis 25 ans sur ces maladies, que ces fongicides existent également depuis 25 ans. Le fait qu'on n'ait pas fait le lien est simplement incroyable pour nous aussi.
Mais que vous ne l'ayez pas fait, pourquoi pas ? Mais pourquoi les agences de sécurité sanitaire ne l'ont pas fait, elles aussi ?
Ça vous me posez une colle. Il est vrai que c'était des maladies génétiques assez rares, mais de mon point de vue, les gens qui à l'époque ont donné l'autorisation de ces médicaments, de ces substances, auraient dû nous contacter. Logiquement, ils auraient dû nous contacter. Mais ça n'a pas été fait.
Concrètement, qu'est-ce que vous craignez comme effet sur la santé humaine avec l'utilisation de ces fongicides qui est massive, je crois ?
Alors, c'est une utilisation massive. Je ne sais pas quelle quantité de ces substances passent dans l'alimentation humaine. C'est sûr qu'il y a une contamination de l'environnement, des eaux, de la terre, des aliments, mais je n'ai aucune idée du risque encouru. Je sais que c'est extraordinairement dangereux. Le risque reste à évaluer. Et ça devrait maintenant être pris en main par les agences
urgemment. Est-ce que vous avez contacté les agences de sécurité sanitaire et alimentaire ?
Je les ai contactées dès qu'on a fait le lien entre ces deux aspects, les maladies humaines et l'utilisation de ces fongicides. J'ai contacté l'agence immédiatement pour les informer. Jusqu'à présent, on n'a pas eu véritablement de retour.
C'est pour ça que vous avez choisi de passer par la voie de presse pour essayer d'accélérer un peu les processus ?
Absolument. Au bout de 6 mois, parce qu'en fait, on est à 6 mois de cette alerte initiale, nous avons considéré qu'il était temps de rendre l'information accessible.
Depuis quand est-ce qu'ils sont utilisés, ces fongicides, en particulier dans l'agriculture ?
Alors, il y a eu une première génération qui doit dater d'il y a une trentaine d'années, peut-être même plus. Et puis une génération plus récente qui correspond au fait qu'ils ont été utilisés à très grande échelle depuis 5-6 ans.
Ouais. Pierre-Eustin, justement, le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire, attention, il y a des risques sur des pathologies très particulières ou engageons d'abord et avant tout des études et des recherches.
Il faut absolument faire des études. Les maladies mitochondriales, comme celles qui peuvent être provoquées par un blocage de la SDH, peuvent aller des encéphalopathies du jeune enfant à des cancers de l'adulte, c'est-à-dire couvrent un range de maladies incroyables. C'est assez difficile de prévoir quelles peuvent être les conséquences pathologiques de l'usage de ces fongicides.
Est-ce qu'on peut imaginer des risques pour autre chose que pour les hommes, pour la faune ou la flore autour de ces champs, par exemple ?
Malheureusement, autant pour l'homme, je n'ai pas idée du risque, mais autant pour la faune, compte tenu de ce qu'on entend récemment sur les populations de vers de terre, les oiseaux, les poissons, toutes ces choses-là, c'est sûr que ce sont des cibles. Ils ont une exposition directe à ces molécules qui inhibent aussi bien chez l'homme, chez le champignon, chez le ver de terre, donc probablement dans la plupart des espèces.
Donc vous faites un lien entre l'effondrement de ces populations que vous venez de nous décrire, par exemple les vers de terre ou les oiseaux, et ces produits utilisés en agriculture.
C'est au moins assez difficile d'éliminer qu'ils soient responsables en partie de ça.
À la fin de la tribune, vous appelez d'ores et déjà à suspendre l'utilisation de ces molécules, avant même d'avoir démontré complètement ce lien. Vous êtes personnellement inquiet ?
Absolument. Il y a une grande inquiétude parce que l'expérience que j'ai des maladies mitochondriales, de leur côté multiforme, me laisse à penser qu'il y a toute chance que dans 15 ans, dans 20 ans, on réalise que le fait d'avoir été exposé à ces molécules est un facteur aggravant énorme.
Merci beaucoup Pierre Rustin. On peut signaler que la tribune est sortie lundi dans les colonnes de Libération. On la trouve bien sûr toujours sur le net. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science.
Merci à vous aussi.
Et puis Axel Villard, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la malaria qui a une odeur. Les parasitologues de l'Université de médecine de Saint-Louis ont montré que les corps humains infectés par le parasite de la malaria dégageaient une odeur particulière attirante pour les moustiques, ce qui a pour conséquence de continuer à propager la maladie. Leurs travaux se basent sur un échantillon de chaussettes d'enfants kényans dont certains étaient infectés. Et ils montrent que les moustiques sont attirés majoritairement par les chaussettes d'enfants malades. Mieux connaître cette odeur pourrait permettre de diagnostiquer plus efficacement la malaria. Chez les marmousets vocalisés, eh bien ça s'apprend, à l'instar de bébés humains qui développent le langage en interagissant avec leurs parents, eh bien les primates marmousets font de même. Des neurobiologistes de l'université de Tübingen en Allemagne racontent que les ouistiti apprennent plus vite les vocalisations et leurs structures quand ils sont en contact constant avec leurs parents. S'ils n'interagissent pas dès le plus jeune âge avec eux, eh bien ces singes développent un retard d'élocution qui ne se rattrape pas à l'âge adulte. Une interaction sociale précoce aurait donc un rôle fondamental dans le développement chez ces nombreux primates. Et puis les animaux sauvages sentent-ils vraiment venir les tremblements de terre? Eh bien, pas si sûr. Les comportements prédictifs supposés de certains animaux face aux tremblements de terre sont scientifiquement très difficiles à prouver. C'est la conclusion en tout cas d'une équipe de chercheurs allemandes qui s'est attelée à cette quête de preuves. Leur article paru cette semaine décrit 729 rapports de comportements anormaux des animaux liés à 160 tremblements de terre passés. Les diverses hypothèses qui suggèrent que les animaux pourraient ressentir les changements dans les eaux souterraines ou les rejets de gaz du sol liés aux ondes sismiques n'ont pour l'instant donc pas pu être confirmé par cette étude. Allez, la santé des migrants, dossier de la tête au carré dans un instant.
Je m'élance et je danse en silence, si longue heureusement qu'on me pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Je flanche, je me planque et je mange une mangue houlument. Si le vin blanc me tente dans mon palais, je tangue gaiement. Souple, je suis souple.
Langue, et c'était la voix de Camille sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
La santé des migrants, donc c'est le dossier d'émission cet après-midi pour comprendre quel est l'état de santé physique et psychique donc de ces personnes qui arrivent dans notre pays après un parcours long, souvent très difficile. Arnaud Weiss, vous êtes médecin généraliste et de santé publique, vous êtes directeur général du COMED, c'est le comité pour la santé des exilés. Christophe Lagabriel, vous êtes médecin psychiatre au centre hospitalier Charles Perens et médecin référent de cette équipe mobile psychiatrie précarité et migrants, le MPP, hein, c'est à Bordeaux. Et puis Daniel Brier, vous êtes médecin psychiatre au CASO, c'est le centre d'accueil des soins et d'orientation de Saint-Denis. Vous êtes aussi responsable de la mission mineurs étrangers à Paris auprès de Médecins du Monde. Voilà, ensemble, on va donc discuter de ce thème avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages, déjà des questions d'ailleurs qui arrivent pour vous sur le site de la tête au carré, franceinter.fr et le hashtag LATAC. Un petit mot de vocabulaire, tiens, pour commencer, Arnaud Weiss, on va employer le mot migrant, hein. Oui, ce sera celui qu'on va utiliser tout au long de l'émission.
En fait, on va employer plusieurs mots pour parler des mêmes personnes, comme souvent dans ce débat-là. Les migrants, c'est généralement le mot utilisé dans les études de santé publique. Quand on insiste sur la contrainte de la migration, c'est là où on va plutôt parler d'exil et d'exilés. C'est-à-dire, c'est une migration non prévue, souvent non choisie et avec différents degrés de contrainte. Le pire étant pour les personnes qui risquent leur vie en cas de retour dans le pays d'origine. C'est le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés, ou par exemple des étrangers malades, au sens où ils sont atteints d'une maladie grave et qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne pourraient pas accéder aux soins qui leur permettent de continuer à vivre. Mais il y a aussi tout un gradient de personnes qui se retrouvent en situation de migration contrainte et pour lesquelles les effets psychiques de cette situation vont être particulièrement importants.
Daniel Brier, vous êtes d'accord,
hein ? Oui, et alors moi je voudrais préciser un peu concernant les mineurs non accompagnés, puisque je m'en occupe particulièrement à Médecins du Monde. Pour eux, en général, ils quittent leur pays à la suite de problèmes de maltraitance familiale. Ouais. Hein, nous, ici en France, on les considérerait comme enfants fugueurs ou comme enfants à la rue, hein, le plus souvent. Hein, parce que souvent, ils ont été confrontés à un deuil du père ou deuil de la mère, parfois des deux. Hein, la très grande majorité des jeunes que nous recevons ont connu ce problème de deuil. Ils ont été en général pris en charge à ce moment-là par un oncle paternel et si le père est décédé, et souvent ça se passe mal. Quand la mère est décédée, c'est la marâtre qui est là et là aussi les conflits sont inévitables.
Alors justement, puisqu'on en parle, Arnaud Weiss, est-ce qu'il y a des études sociologiques sur les motifs d'exil justement des migrants, alors là en général et quelle que soit la catégorie d'âge?
Oui, il y en a beaucoup. Enfin, d'abord, il y a les travaux d'observation des professionnels et des associations qui donnent beaucoup d'informations et des études sociologiques qui confirment, pour dire les choses très rapidement, et c'est aussi pour ça que les discours politiques français et européens prennent malheureusement pas assez en compte ce type d'études, c'est que les motifs de migration sont souvent multiples et complexes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des situations très souvent de fuite de violence, qu'elles soient d'État ou intrafamiliales ou interpersonnelles, et aussi d'autres motifs qui peuvent être économiques, familiaux, divers. Pour la plupart des personnes, c'est beaucoup de motifs, étant entendu qu'il faut toujours se rappeler que c'est une petite partie des personnes concernées, d'abord qui prennent la route de l'exil. Absolument. Et ensuite qui y parviennent.
Christophe Lagabriel, à l'échelle d'une ville comme Bordeaux, justement, ça représente quoi cette question des migrants ?
Alors, j'ai envie de rappeler un peu, il y a 10 ans, on a monté notre équipe, là, on est allé au-devant des travailleurs sociaux et on pensait s'adresser aux 250 à 500 SDF français qui sont pochardisés. Et en faisant le tour des lieux d'accueil de logements et sociaux, on s'est rendu compte que les trois quarts de ces personnes étaient devenus des migrants, arrivés depuis moins de 3 ans, qui étaient en situation de précarité, dormant dans la rue, dormant dans des foyers pendant 3 jours, puis à nouveau dans la rue, hébergés à droite et à gauche ou dans des squats. Et donc, on a été amené à s'occuper préférentiellement de ces personnes.
Donc, au départ, l'équipe mobile, elle était destinée au SDF ?
Oui, c'est un dispositif qui a été créé en 2005 par le ministre Bernard Kouchner, qui vise à s'adresser aux gens reclus en repli de la société pour des raisons de persécution, de désorganisation, d'alcoolodépendance. Donc dans un aller-vers. Et il se trouve que maintenant, on est confronté à cette population de migrants qui est venue se mêler à ces personnes. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils conjuguent, et c'est pas seulement une somme, c'est une cumulation des effets de la migration, la question de la perte, la question de l'entre-deux. Je suis pas encore d'où je viens et je suis pas encore où je suis arrivé. arrivée, et toute l'insécurité qui est liée à ce statut, et des conditions de vie précaires et des conditions de précarité administrative.
Arnaud Weiss, est-ce que le nombre de personnes accueillies a beaucoup varié au fil de ces années, et de ces toutes dernières années en particulier? Parce que le phénomène, on en parle énormément depuis quelques temps, là, mais est-ce que ça se vérifie aussi dans les chiffres?
Alors non. On peut répondre de deux façons à votre question. En termes de chiffres, non. Globalement, on reste dans des flux de personnes exilées qui sont globalement stables depuis sur les 20 et 30 dernières années. Après, si on parle des conditions d'accueil, les gens sont de moins en moins bien accueillis.
Alors ça, c'est autre chose.
Ça, c'est les conséquences qu'il va y avoir sur la santé. C'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est ce que vient de dire mon confrère, hein, ils arrivent non seulement avec le bagage des souffrances depuis le pays d'exil, mais avec de plus en plus d'impact sur la santé, des conditions qu'ils ont dû traverser pendant le trajet et des conditions d'inhospitalité qu'ils rencontrent en France.
Alors justement, on va écouter ensemble l'extrait d'un documentaire qui a beaucoup marqué, qui avait été diffusé sur Arte en 2015, qui s'appelle La Permanence, au sein de l'hôpital Avicenne, avec cette consultation et la voix d'un Guinéen qu'on va entendre et qui raconte son parcours.
Qu'est-ce qui t'amène alors?
Du coup, là, j'ai eu des fractures au niveau du dos, ouais, et de la tête, mais ça a été cousu. Mais souvent, je n'arrive pas à dormir jusqu'à 2 heures du matin ou 3 heures. Ça me fatigue souvent. Mais le niveau du dos, là, ça me travaille sérieusement.
C'est des traces?
Oui, c'est des traces.
Oui. T'es resté en prison là-bas?
Non, je n'avais pas fait la prison, j'ai pris la fuite.
Qu'est-ce que t'as eu au dos là?
Bon, c'est les... Je ne sais pas, c'est des coups. Là, je mets la pommade là, mais jusqu'à présent. Et ça...
Tu avais eu des radios du dos?
Je n'ai pas fait de radio encore.
Ouais, qu'on fasse des radios. Parce que tu dis que ça a été cassé, c'est... mais tu sais pas trop quoi.
Mais je sais pas trop, mais je sais que ça me
travaille. T'a bien tapé quoi. Ouais. Hein? Puis là, t'as des grosses traces partout. C'était avec des bâtons tout ça, ou des crosses de fusil, des machins comme ça?
Non, pas les fusils, des bâtons et puis des coups.
Tiens, mets-toi debout, on va se pencher comme ça. Ça fait mal ou ça va à peu près?
Waouh.
Ouais. Donc je vais vous donner des médicaments pour calmer la douleur, voilà, tout simplement. Et puis quelque chose pour détendre un petit peu le soir pour pouvoir dormir.
D'accord.
Voilà, La Permanence en 2015 au sein de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Arnaud Weiss, vous connaissez le médecin qui s'occupe de cette consultation qu'on entendait là à l'instant?
Le docteur Jean-Pierre Guérard, oui, tout à fait.
Ouais. Alors on entend les différents symptômes, hein, justement, ce que manifeste ce monsieur qui a quitté sa famille. Hein, il a laissé ses enfants sur place en Guinée. Problèmes de sommeil, blessures liées à la maltraitance, aux tortures, séparation familiale, traumatismes divers, fractures non soignées. Le bilan est extrêmement lourd, évidemment. Hein.
Oui, et c'est souvent ce qui, en effet, conduit les personnes à consulter la première fois auprès d'un médecin. C'est au fond pour faire un bilan de santé, hein. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble d'abord des douleurs qu'ils ressentent, des insomnies, les troubles fréquents, des troubles digestifs extrêmement fréquents, et souvent de symptômes mentaux, on va en parler, la peur d'avoir laissé des séquelles dans ces histoires-là et de savoir si ils sont pas atteints de maladies particulièrement graves, et c'est ce qui les conduit à aller consulter un médecin.
Daniel Brier.
Oui, la première chose dont se plaignent la plupart des migrants que nous recevons, c'est de mal de tête. Et ça revient régulièrement.
On le voit dans le documentaire d'ailleurs. Hein,
ils disent, j'ai la tête qui chauffe pour un certain nombre et j'ai mal à la tête. Et quand, à ce moment-là, on leur dit, mais est-ce que vous pensez beaucoup? D'un seul coup, là, il y a quelque chose qui se libère au niveau de la parole. Et ça, c'est tout à fait important.
Les maux de tête et les problèmes de sommeil aussi, Christophe Lagabriel, qui reviennent alors là tout le temps. Hein.
Oui, les problèmes de sommeil, bien sûr.
Ce qui est fondamental pour une bonne santé, évidemment.
Une entrée dans la symptomatologie et dans la diagnostic de la pathologie des personnes. Mais pour revenir sur la question des douleurs, c'est bien évidemment un symptôme qui permet l'entrée dans le soin, d'où l'intérêt de ces consultations, comme on a vu dans le film de Jean-Pierre Gart, conjointe avec un médecin somaticien et un psychologue ou un psychiatre à côté, dans la même pièce. Mais aussi, c'est le lieu d'accès directement aux soins, et notamment par des thérapies à médiation corporelle, et qui permettent, dans cette difficulté qu'ont les patients souvent à accéder à la parole pour verbaliser ces traumatismes, à accéder directement aux traumatismes, parce que ces douleurs sont des souvenirs tissulaires et aussi émotionnels de traumatismes.
Ouais. Arnaud Weiss, évidemment, dans l'expression de ces douleurs, dans le langage, il y a la barrière évidemment de la langue qui est absolument fondamentale. Comment on travaille justement au sein des unités pour faire face à ce problème de la langue? On a des traducteurs pour toutes les langues du monde?
Alors malheureusement, enfin, c'est un point extrêmement important, alors qu'il est non pas devenu, parce que c'est un problème extrêmement ancien, l'insuffisance de recours à des interprètes professionnels. Il se trouve que dans la dernière loi de santé publique, on a enfin obtenu un certain nombre d'associations qui défendaient ce projet depuis longtemps, que soit reconnu comme une prestation de santé essentielle, un interprète professionnel pour les personnes qu'on appelle allophones, hein, celles qui ne peuvent pas s'exprimer en français. Depuis que c'est devenu une prestation de santé, se voit de plus en plus le grand écart entre la petite partie des structures de soins qui font appel à des interprètes professionnels et la grande majorité qui ne le font toujours pas.
C'est catastrophique, enfin, dans un échange avec un médecin, si on ne peut pas exprimer clairement ce qu'on ressent.
On ne peut évidemment pas faire du soin, alors en santé mentale, mais en santé en général, hein, en médecine de toute façon également, dans le travail social et juridique aussi. Pour vous donner une ampleur des besoins, au centre de santé du Comet, qui est à l'hôpital de Bicêtre, sur 3000 personnes par an, c'est au moins un tiers des consultations qui se passent en présence d'un interprète professionnel. On est organisé pour avoir tous les jours deux interprètes présents sur place, dans les 10 principales langues que parlent les personnes qui viennent nous voir. Et en effet, quand par contre on n'a pas l'interprète présent sur place, on va téléphoner pour avoir un interprète professionnel.
Donc il y a toujours quelqu'un pour traduire les...
Malheureusement non.
Les propos
Des fois, nous n'avons pas les moyens, parce qu'après c'est une prestation pour laquelle il faut trouver des budgets. Mais ça couvre quand même une partie importante des besoins, et on voit bien l'énorme différence de qualité de prise en charge et de relations thérapeutiques.
Daniel Brier, chez les jeunes que vous recevez, il y a beaucoup de francophones aussi quand même.
La majorité sont francophones.
Puisqu'ils viennent d'Afrique.
Voilà, ils viennent d'Afrique subsaharienne, mais ce problème de la langue est tout à fait important, parce qu'en pratique, le plus souvent quand ils quittent leur pays, c'est pour quitter leur pays et ne savent pas encore du tout quelle sera leur destination. Ils partent comme ça et c'est au fil des rencontres au fil du voyage que les choses se dessineront. Et quand ils arrivent en Europe, là, ils se rendent compte, là, déjà, quand ils sont en Afrique du Nord, ils parlent arabe et c'est déjà une grande difficulté pour eux. Quand ils arrivent en Europe, du coup, leur désir, c'est de venir en France, parce que là, au moins, il y a une langue avec laquelle ils pourront se retrouver. Mais dans les entretiens, pour un certain nombre, ils sont très contents de pouvoir reparler leur langue maternelle. Hein, ça favorise le lien.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de ce dossier consacré à la santé des migrants, et je vous transmets les messages des auditeurs qui arrivent. clairvoyant, c'était Nakan.
La tête au carré. Sur France Inter.
Is it difficult to sleep?
Yeah, sometimes the happiness see me every time.
Yeah.
When I'm shying. Even the sleeping.
Yeah. And with that you sleep?
Yeah.
Did you spoke with somebody, with a psychologist?
Yes.
J'aurais bien donné un antidépresseur. C'est pas bon. Et ça sert à rien.
Oui.
Je crois que ce serait bien que tu la vois quand même, pour bien lui expliquer peut-être. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse des certificats médicaux pour ses brûlures, pour son état mental.
Ouais.
Et donc, il va falloir bien connaître sa situation. Donc, peut-être effectivement que ce serait bien de la voir pour avoir des éléments et lui expliquer bien tout ça.
Je vais y aller.
Moi, je crois que c'est mieux.
Voilà, toujours extrait de ce documentaire, La permanence d'Alice Diop, pour parler de la santé des migrants avec mes invités Arnaud Weiss, médecin généraliste, et Christophe Lagabriel et Daniel Brier, médecin psychiatre, tous les deux, avec, on l'entendait, Arnaud Weiss, ce triptyque, médecin généraliste, psychiatre et assistante sociale au sein de l'hôpital Avicenne. Est-ce que cette structure, elle est très répandue en France pour accueillir ces personnes?
Pas assez par rapport aux besoins, et c'est clairement un des modèles de réponse qu'on essaye les uns et les autres de construire dans les endroits où on travaille. L'aspect pluridisciplinaire est fondamental, vu la pluridisciplinarité des facteurs de vulnérabilité des personnes. Et puis, pour parler de ce qui est aussi souvent malheureusement insuffisant et qui est fondamental, c'est d'avoir du temps. Et puis, on vient de le dire, c'est d'avoir un interprète. Il faut du temps, un interprète et une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir s'occuper de ces personnes.
Et puis de l'argent, à la base de tout.
Et donc,
évidemment,
comme pour,
en s'étant troublé,
comme pour le reste de l'argent.
Voilà. Alors, en ce moment, justement, l'actualité, c'est le projet de loi Asile et Immigration qui est arrivé lundi à l'Assemblée nationale, qui entend allonger la durée maximale de rétention des migrants en situation irrégulière de 45 à 90 jours, et puis raccourcir la procédure d'asile. Vous regardez ça avec beaucoup d'intérêt, j'imagine?
Avec beaucoup d'intérêt, et on est atterré. C'est une catastrophe. Alors, pour le dire rapidement, c'est une catastrophe supplémentaire comme les différentes lois sur l'immigration que chaque gouvernement se croit devoir produire quand il arrive aux affaires.
Et ça va être pire en pire.
Et c'est de pire en pire depuis 30 ans. Ça doit être un des domaines qui a le plus été modifié dans la législation française. Avec un calcul qui marche jamais, mais qui est en gros celui de penser qu'en détériorant les conditions d'accueil, les gens vont pas venir. Quand on travaille comme nous auprès des personnes et qu'on voit que c'est une question de survie pour les gens d'avoir pris la route vu les risques qu'ils ont traversés.
Et puis les gens en prenant la route n'ont pas cette considération-là de toute façon.
Et puis même quand ils l'ont, il vaut mieux essayer de survivre en France que de mourir dans leur pays d'origine. Donc de toute façon, c'est une impasse qui croit devoir répondre à une partie de l'opinion publique, mais malheureusement qui continue à dégrader la santé des personnes, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui.
Christophe Lagabriel, alors sur le terrain, à Bordeaux par exemple, des conditions de travail aussi de plus en plus compliquées pour accueillir ces personnes?
Bon, j'avoue que l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine et l'hôpital Charles-Perrins nous dotent de moyens et dotent beaucoup de villes de la Nouvelle-Aquitaine de MPP nouvelles. Donc il y a une vraie sensibilité de l'ARS sur ces questions-là. Donc on n'a pas, nous à Bordeaux en tout cas, on est 12 personnes, 8 équivalents temps plein pour travailler dans une équipe pluridisciplinaire avec des traducteurs qui sont des vrais partenaires, des vrais co-thérapeutes avec lesquels on travaille régulièrement, et leur travail est absolument fondamental. Mais pour revenir sur la loi, je crois que bon, effectivement, raccourcir le délai de la question d'analyse de l'asile pour savoir si on est réfugié ou pas, et accueillir mieux ceux qui sont réfugiés et reconduire à la frontière si possible ceux qui sont venus, c'est effectivement une logique qui est à court. Mais je crois qu'il faut en arrière-plan dézoomer un peu et dire que, enfin, c'est tous les patients qu'on voit, tous les migrants qu'on voit, les gens ne repartent pas, et ils ne repartent pas parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de rentrer dans leur pays, parce qu'il y a eu une vendetta en Albanie qui fait qu'on leur a piqué leur terrain d'héritage et qu'il y a eu des menaces, parce qu'ils n'ont pas choisi la femme que leur père voulait, parce qu'on les a mariés à un homme de force, parce qu'ils ont été torturés à l'électricité dans les prisons de Kinshasa. Et donc ces lois-là, il faut les faire. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un peu un leurre, parce qu'en arrière-plan, on accueille 200 000 personnes, c'est-à-dire 0,3% de la population française chaque année, ce qui est quand même relativement modeste. Les gens restent, et restent avec pour seul droit l'aide médicale d'État, ce qui est beaucoup pour certains, mais surtout, c'est une machine à fabriquer de la précarité. Les gens n'ont aucun revenu, n'ont aucune carte de bus, n'ont accès à aucun logement, sauf le logement en centre d'accueil d'urgence, précaire, un coup à la rue, un coup... Et donc, je crois qu'il faudrait peut-être s'inspirer du modèle américain que Obama avait décidé, qui était finalement un moyen terme, qui était de dire, bon, on ne donne pas des papiers, vous n'êtes pas français, vous n'avez pas le droit de résider en France, mais vous avez le droit de travailler. Ouais. Et donc, on casse la machine à fabriquer de la précarité, alors que l'ARS, de l'autre côté, nous finance et finance les travailleurs sociaux pour combattre cette précarité.
Et précarité qui ajoute évidemment aux troubles psychiques, parce que c'est une accumulation aussi des conditions elles-mêmes en France qui s'accumulent sur ces personnes.
C'est très important. Tous ceux qui sont arrivés en France ont connu la rue, avec ce que ça signifie, par exemple, au niveau du sommeil. J'ai des récits de jeunes ou aussi d'adultes qui expliquent qu'ils ont tellement peur la nuit qu'ils marchent toute la nuit pour éviter de s'endormir, tellement ils ont peur d'être agressés au cours de la nuit. C'est tous ces
agressés par leur cauchemar, par le souvenir des traumatismes qu'ils ont vécu.
Sans compter les cauchemars qui aussi permettent les réveils. Et je voudrais dire aussi quelque chose concernant justement les mineurs. Ils quittent leur pays parce qu'ils se sentent rejetés, et ils sont rejetés par leur famille. Ils sont en même temps de passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est une phase de transition. Et donc, ils perdent leurs repères, ils s'accrochent ici. Pour eux, c'est inimaginable ensuite un retour en arrière. Ce n'est pas possible pour eux.
Joséphine sur franceinter.fr demande comment envisager que la santé, notamment mentale, de ces personnes soit prise en compte dans les politiques d'accueil sans en faire un instrument de contrôle, Arnaud Weiss.
Alors la question est d'une part pertinente pour la santé mentale, mais plus largement c'est un des enjeux de la santé publique, de la santé des migrants à l'heure actuelle. C'est que les questions de santé devraient continuer à relever, comme ça a été le cas jusqu'en 2007, du ministère de la Santé et de ses agences. Il y a malheureusement eu, depuis la création en 2007 du ministère, à l'époque de l'identité nationale de l'immigration et de l'intérieur, il est resté que le ministère de l'intérieur soit en partie en charge des questions de santé des réfugiés et des demandeurs d'asile, ce qui aux associations paraît une aberration, parce que chacun son métier et son domaine de compétences. Les ARS, c'est vrai, font un travail formidable, nous aussi au Comed, on est soutenu par les ARS notamment d'Île-de-France, de PACA et de Guyane. Notamment les ARS font partie des agences qui ont compris qu'il faut des financements pour l'interprétariat professionnel. Malheureusement, beaucoup de budget, de plus en plus de budget leur échappent par rapport à des politiques dont certaines sont plus du contrôle sanitaire, qui n'a pas d'intérêt en santé publique, qui peut se comprendre dans une logique de protéger les frontières par rapport à des maladies infectieuses, telles que ça a été mis en place il y a 100 ans, mais malheureusement dont il reste encore des stigmates dans les politiques d'accueil, c'est-à-dire que vous avez par exemple une visite aujourd'hui, en 2018, qui reste sur ce modèle-là à l'OFI, fait par le pôle santé de l'OFI, qui est une agence du ministère de l'Intérieur, qui va dépister la tuberculose pulmonaire pour des personnes souvent qui sont en France depuis 3-4 ans. Il aurait mieux valu leur proposer un dépistage sans attendre cette visite obligatoire à l'OFI, mais justement dans un contexte obligatoire qui ne permet pas, c'est en violation du code de déontologie médicale, de faire de la prévention. En santé, soit vous faites du soin et de la prévention, vous dit le code de déontologie médicale, soit vous faites du contrôle et de l'expertise. Mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Donc toutes les actions qui doivent être développées doivent l'être avec le libre consentement. Ça marche mieux la santé quand les gens sont consentants et qu'ils ont compris ce qu'on leur propose, et plutôt par des acteurs de santé que par des acteurs du ministère de l'Intérieur.
Alors on a Louis qui nous écrit également, qui est médecin généraliste dans le Puy-de-Dôme, dans une petite ville. Un casseau a été ouvert près de notre cabinet médical. Je suis amené, dit-il, à m'occuper des migrants afghans ou soudanais, ne parlant que arabe ou pachtoun, et je me retrouve bien désemparé pour m'occuper d'eux. Dans notre département, il n'existe pas de structure pluridisciplinaire dédiée aux migrants. Comment mieux les prendre en charge, demande il, Christophe Gabriel, pour lui répondre.
Alors,
pour aider votre confrère.
Je crois, quand on est à distance, je ne sais pas dans quelle ville exactement ce monsieur, mais c'est de mobiliser des traductions par téléphone, qui sont le meilleur moyen, alors contre un financement qu'il faut absolument négocier, parce qu'on ne peut pas travailler. Il faut dire que c'est consubstantiel aux soins. C'est-à-dire que c'est comme un médecin qui n'a pas de radio des poumons, qui n'a pas de stéthoscope, qui ne peut faire aucune analyse de sang biologique.
S'il y a pas de traducteur,
la même chose. Voilà. Ouais. On ne peut pas comprendre les problématiques du patient patient et le patient ne peut pas comprendre ce qu'on comprend de ses problèmes et comment on veut l'aider. Donc c'est inopérant, donc il faut se battre pour avoir des moyens et si possible téléphonique quand on est à distance de l'interprétariat.
D'autres pistes, Daniel Breyer?
Non, je crois que c'est dans des circonstances un peu particulières, je pense que l'interprétariat par téléphone finalement peut bien fonctionner. Moi, maintenant j'en ai l'habitude,
j'en ai l'expérience.
En général, les choses se passent bien. Ce sont des interprètes qui sont formés à cela, qui sont formés au problème de la migration et qui connaissent souvent aussi la culture du pays dont ils connaissent la langue. Et donc,
Absolument. Parfois,
certains nous apportent quelques éléments supplémentaires.
C'est ça. Alors, c'est une question que je vous poserai tout à l'heure. On va faire une petite pause avec Georges Moustaki, puis on se retrouve juste après sur France Inter.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit, passe le temps, il n'y en a plus pour. Je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su, passe le temps, il n'y en a plus. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour, m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.
Voilà une chanson d'espoir avec Georges Moustaki, pardon, il est trop tard, qui fait réagir d'ailleurs nos invités, Christophe Lagabriel.
Oui, cette magnifique chanson m'évoque deux choses. Un, que dans les cas des traumatismes, qui est cette confrontation au réel de la mort qui se fixe dans la mémoire, là, dans l'amygdale, à la base du cerveau, qui se réactive sans arrêt dans ses cauchemars et la journée et terrorise les gens dans leur présent. Que le temps ne fait pas oublier le traumatisme, mais que deux, l'amour, effectivement, peut bien aider à réorganiser cette mémoire qui est figé dans cette terreur et que l'affection qu'on porte aux patients, en tout cas leur attention, dans leur empathie et dans l'humanité qu'on donne aux soins. Et je dis dans notre équipe, nous sommes infirmiers, psychologues, psychiatres, psychomotriciens, secrétaires, traducteurs, mais nous sommes tous psychothérapeutes.
Ouais.
Et c'est cette attention-là qui remet les gens dans une humanité digne qui leur permet de réorganiser et de s'intégrer en mettant à distance ces sentiments de peur et liés au traumatisme.
Bah justement, on va réécouter un dernier extrait de la permanence. On entend justement l'humanité du médecin et son empathie avec cette femme qu'il a en face de lui.
Ce documentaire.
Vous dormez où en ce moment?
À Emmaüs.
À Emmaüs. Et ça se passe pas à peu près bien?
Non, pas très bien.
Pas très bien.
Mal à la tête beaucoup.
Mal à la tête beaucoup.
Là.
Ah, le cou toujours.
Jusqu'à le pommade, moi je parle. Médicament pour la tête. Moi, je pars, je prends très, mais ça m'a mal aussi.
Oui, c'est de l'arthrose, ça. Moi aussi, je sors.
fais mal aussi.
Bah oui, je suis vieux aussi, moi.
Tu fais mal.
J'ai le même âge que vous.
Voilà la voix du médecin généraliste Jean-Pierre Garde dans cette consultation donc de l'hôpital Lévis. C'est un extrait de ce documentaire d'Arte, La Permanence, sorti en 2015, Alice Diop. Je vous conseille chaudement de regarder ce film.
Cette voix qui soigne,
absolument.
Peu importe ce qu'il dit, c'est ce ton-là qui apaise et qui sécurise.
Ouais.
Et qui soigne.
C'est intéressant d'observer la posture aussi du médecin généraliste Arnaud Weiss, parce que celle justement de Jean-Pierre Garde est à la fois empathique, mais aussi dans beaucoup de pudeur et de retenue. C'est-à-dire qu'il est très peu dans le contact, hein, mais juste ce qu'il faut en tous les cas, on sent réellement qu'il y a une écoute, mais une distance aussi, c'est assez étonnant finalement.
Tout à fait, souvent le premier soin, enfin, et puis parfois ça dure longtemps, c'est d'abord d'écouter les gens, d'avoir le temps d'écouter les gens dans un parcours où ils sont dans un isolement social et relationnel qui est absolument majeur pour une grande partie d'entre eux. Donc effectivement, souvent les premières consultations, c'est écouter ce que les personnes ont à dire, créer une relation de confiance dans lesquelles pourront s'exprimer parfois, pas à la première consultation, mais pendant les suivantes, des éléments beaucoup plus traumatiques que les gens ont subis et qui ne peuvent pas livrer à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore.
Daniel Brier, vous arrivez à suivre sur le long terme justement les jeunes que vous recevez avec Médecins du Monde?
Alors, les jeunes que nous recevons, non, on ne les suit pas à long terme en général, parce qu'en fait, nous considérons que nous sommes là pour les aider à passer une étape. Hein, et d'emblée, c'est quelque chose qui est intégré aussi par ces jeunes. Normalement, ce qu'on peut espérer, c'est que ultérieurement, ils soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et donc, à ce moment-là, il y aura d'autres modes de prise en charge qui feront que nous n'avons plus à intervenir. Et donc, nous considérons que nous sommes là uniquement pour les renforcer dans une étape de leur vie. Ils ont tout un parcours encore à faire.
On a ce message d'un psychiatre qui nous dit qu'il travaille dans un centre de soins pour les victimes de torture à Marseille. Notre association Osiris, située justement dans la ville, a été financée pour proposer aux personnes exilées des consultations psychologiques ou psychiatriques en présence d'un interprète toujours le même. Des suivis qui sont très riches. Les personnes entament des thérapies sur la durée, justement. La présence d'un interprète formé à la situation d'interprétariat en santé mentale est un enjeu primordial dans la prise en charge et le soutien que l'on peut apporter à ces personnes au parcours traumatique et déshumanisant. Christophe Lagabriel, décidément, hein, tout concorde en tous les cas.
Oui, c'est cette question de cet entre-deux où les gens sont dans un temps suspendu, ni tout à fait de leur pays, ni encore intégrés, où ils ne savent pas s'ils seront intégrés, ils ne savent pas quand, ils sont dans des conditions de vie précaires, le trauma souvent fait effraction dans leur psychisme, et donc ils sont en rupture avec eux-mêmes, ils sont passagers d'eux-mêmes, ils sont éjectés d'eux-mêmes, et que c'est la prise en charge dans l'écoute, parfois à médiation corporelle, on a une psychomotricienne, il y a une médecin qui s'occupe spécifiquement des questions de douleur dans notre équipe pour cet abord aussi au niveau du corps pour sécuriser, apaiser, rencontrer et dépasser ces souvenirs traumatiques qui réactivent et puis permettre à la personne de se réhabiliter elle-même et de se réorganiser et de pouvoir se réintégrer dans ce nouveau monde.
Arnaud Weiss, justement, la question de la culture, elle est absolument primordiale aussi dans la prise en charge parce que les outils thérapeutiques qu'on utilise ici en France sont parfois très éloignés de ceux qui seraient utilisés dans les pays de ces personnes.
Nous, dans notre expérience au Comed, on reçoit des gens de 120 nationalités. Elle n'est pas primordiale, la question de la culture. Là où elle l'est, c'est quand il n'y a pas d'interprétation. C'est-à-dire que, par contre, là où elle va être primordiale, c'est pas toujours du côté du migrant où parfois ça relève du stéréotype, c'est du côté des approches professionnelles.
Ah tiens.
Il faut pouvoir parler la même langue dans une approche pluridisciplinaire quand vous avez un médecin, un psychologue, une assistante sociale, un avocat qui vient vous demander un certificat médical.
Donc le problème est plutôt de notre côté.
Les problèmes de culture se posent dans les difficultés de parler une langue professionnelle commune, mais 97% ou 19 des problèmes dits culturels disparaissent quand vous avez un interprète et que vous avez du temps. Il faut du temps, il faut se comprendre, on n'a pas les mêmes référentiels, ça prend plus de temps. Par contre, là où c'est une difficulté, c'est que c'est souvent un motif d'exclusion de mettre en avant des soi-disant spécificités culturelles par un certain nombre d'acteurs du système de santé et qui va renvoyer sur des consultations dites spécialisées comme les nôtres ou celles des amis d'Osiris à Marseille mais qui au fond ne sont à première vue pas une mauvaise idée mais malheureusement souvent une façon par exemple de la part des centres médico-psychologiques qui devraient être la première réponse sur le territoire français pour l'ensemble de la population disent les textes de loi dont les exilés mais qui par défaut de moyens de personnel et d'interprètes, pour certains d'entre eux, ne vont pas accueillir ce public-là en disant « Ouh là là, nous on n'est pas spécialistes, vous comprenez, c'est très compliqué. »
Donc c'est un faux problème. Hein.
Alors c'est souvent, il faut faire attention à l'usage de ce ouais. concept, c'est souvent un faux problème qui masque en fait des pratiques de discrimination.
Ouais. Daniel Brier.
Oui, moi je voulais revenir un petit peu parce que on en a parlé un certain nombre de fois. Il y a le problème des traumatismes, mais il y a aussi le problème de la migration avec la précarité pendant des mois et des mois. Et cela, ça a aussi une importance considérable dans ce qu'ils vont ressentir. Et quand on a affaire en particulier à des mineurs, ils se mêlent cela aussi à les problèmes de leur avenir. C'est-à-dire ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont envahis de pensées. Les reviviscences des scènes traumatiques, et il y en a eu plusieurs qui se sont répétées, chaque fois ça réveille les précédentes. Il y a la précarité, la peur de retourner dans la rue parce qu'ils ont tous connu la rue, de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir manger, où est-ce qu'ils vont pouvoir dormir, où est-ce qu'ils vont pouvoir accomplir les actes d'hygiène les plus élémentaires. Et il y a ce problème culturel qui est plus, à mon avis, les problèmes de langue, et c'est pour ça que les gens d'origine francophone choisissent plutôt la France, parce que ça fait une barrière encore considérable.
Les procédures administratives, c'est un facteur aggravant du bien-être psychique aussi de ces personnes que nous recevons chez nous, Christophe Lagabriel.
Il y a deux périodes. Il y a la demande d'asile qui met la personne dans une situation de vulnérabilité, une de plus, où on ne sait pas jusqu'à quand on va attendre, on ne sait pas si on va être accepté ou
les
pas.
Les délais sont
si
parfois extrêmement longs.
Oui, jusqu'à un an et demi. Alors tous les gouvernements essayent de le raccourcir et c'est un bien.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc il y a cette attente qui est extrêmement anxiogène. Et puis il y a effectivement, pour nos patients, nous en santé mentale, qui ont des pathologies extrêmement sévères, la possibilité de demander des titres de séjour pour soins, étrangers malades aussi appelés, et qui effectivement permettent pendant un an ou deux ans de sécuriser les patients pour permettre le soin. Et s'ils ont effectivement un tableau qui devient sévère, reste sévère pendant trois ans, la possibilité d'avoir un titre de séjour à l'issue de ces trois ans. Et nous sommes toujours extrêmement attaqués, mais bien sûr bien moins que les patients, qu'entre au bout de trois ans de travail, de réinsertion, de remis les patients à flot et intégrés, ils sont barrés dans leur intégration, surtout dans leur état psychique. Il y a une régression, une réapparition symptomatique quand ils sont en échec de glisser sur une régularisation.
Très compliqué également, Arnaud Weiss, de faire un récit de son histoire lorsqu'on a des problèmes psychiques, tout simplement, parce qu'on a aussi des problèmes de mémoire, on a des problèmes de cohérence.
Tout à fait, des troubles de la concentration, de l'attention, de la mémoire, que nous on retrouve chez au moins un patient sur deux parmi les demandeurs d'asile dans les syndromes psychiques. Et c'est la raison pour laquelle tous les acteurs de l'asile sont extrêmement inquiets de la réduction des délais de recours en matière de droit d'asile. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'ajouterai d'un mot, puisque vous parlez des procédures administratives et qu'on parle de santé, ce qui est de pire en pire, ce sont les difficultés d'ouverture de droit à la sécurité sociale, à la CMU complémentaire, à l'aide médicale État. C'est des choses qui, à la fois par des lois de plus en plus restrictives, mais surtout dans des pratiques de plus en plus restrictives des caisses de sécurité sociale à l'encontre des migrants en général et des demandeurs d'asile en particulier, ça crée des situations où les personnes doivent attendre dans certaines régions pendant six mois avant d'avoir des droits ouverts, alors que théoriquement, ils devraient les avoir tout de suite. Et ça va peser sur les soignants, ça va peser sur les hôpitaux, parce que les gens vont se retrouver dans les urgences et dans les permanences d'accès aux soins de santé des hôpitaux, à se demander qui va payer la facture, alors que théoriquement, c'est des droits qui auraient dû être ouverts six mois plus tôt.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans La Tête au Carré. On peut renvoyer à cette étude du COMED qui avait été réalisée en septembre dernier justement sur cette question de la santé des migrants. Étude au long cours réalisée sur 10 années pour justement voir un petit peu quels sont les principaux troubles et maladies. Et puis bien sûr les coordonnées de vos centres d'accueil différents sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus.